Ah, je supporte pas, mais arrête, tu vois pas que tu nous stresses.
Plus vite.
Vous connaissez l'ASMR ? Ce sont des vidéos dont on dit qu'elles peuvent t'aider à relaxer.
À part bien rester chez soi, c'est très important. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose à part attendre.
Attendre, oui, c'est ça.
Que tout revienne à la normale.
À la normale. C'est une méthode de relaxation.
Pour
de stimulation sensorielle
qui
fonctionne sur un mode proche de l'hypnose.
Des
chuchotements, des tapotements, des bruits d'ongles.
Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Moi, personnellement, je ne supporte pas. Ça me donne envie de prendre une batte de baseball et d'aller dans une fury room pour casser des écrans d'ordinateur. Donc. Enfin, cela dit, il y en a peut-être qui aiment, hein. Je peux pas juger pour les autres.
Hein. Je me suis dit que tu méritais bien un petit peu de douceur pour commencer. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'envoie tout mon courage, je t'envoie tout mon love. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR.
On ne va pas se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle séance ASMR, c'est sûr. En tout cas, ça sera sans moi. Je vais commencer aujourd'hui d'abord en vous disant, comme d'habitude, que j'espère profondément que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vous vivez toujours aussi bien que possible la situation actuelle et qui est longue et complexe. À la complexité s'est ajouté ce matin le fait que l'université vous a averti d'une semaine de cours supplémentaires prise sur les vacances. Ça n'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Et si cette nouvelle devait être cumulée avec une interrogation écrite à la 17e séance, au lieu d'avoir cette interrogation écrite à la sortie des vacances, vous l'auriez inévitablement la semaine prochaine. Nous avons reçu des mails d'étudiants évidemment angoissés à cause d'une telle hypothèse. Je tiens tout de suite à vous rassurer. Nous n'allons pas faire une interrogation écrite la semaine prochaine. Nous n'allons pas rajouter de l'angoisse à votre situation actuelle. L'interrogation écrite sera maintenue la semaine de retour des vacances, comme convenu initialement. Et nous allons insérer la semaine prochaine une séance qui ne sera pas la plus difficile pour vous permettre de suivre le rythme sans vous fatiguer davantage. Ça n'est pas du tout mon intention. Et pour ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est que vous conserviez du plaisir à faire du droit, à essayer d'être en relation avec vos chargés de TD, à essayer d'avancer et de comprendre votre programme, et à trouver un intérêt intellectuel, à travailler sur les questions qui font partie de ce programme du deuxième semestre. Donc ne vous inquiétez pas, et si jamais vous aviez des inquiétudes, faites-les remonter à vos chargés de TD. Je vous le redis, ni l'équipe de chargés de TD, ni moi, ne sommes là pour en rajouter. Voilà. Il est donc temps de passer à un nouveau chapitre, chapitre 5, la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce chapitre renvoie à des dispositions qui figurent dans le Code civil, aux articles 1245-1 et suivants, qui sont les anciens articles 1386-1 et suivants. Vous verrez donc dans certains livres une référence aussi bien à la nouvelle numérotation qu'à l'ancienne. Le scandale de la vache folle, celui du sang contaminé, celui de la viande de cheval, celui du Mediator, ou bien encore les désherbants de Monsanto, et puis pourquoi pas, peut-être demain, l'hydrochloroquine. On parle ici de drames, de catastrophes, qui peuvent être sanitaires, industriels, commercial, qui pose des problèmes de santé publique, qui repose toutes, si vous reprenez ce que je viens de dire, qui repose toutes sur des défauts de produits. On évoque aussi des problèmes de responsabilité qui se multiplient, qui vont affecter un nombre très important de personnes. Pourquoi pas donner lieu à des actions de groupe, des class actions à la française, qui, elles, sont également gouvernées par un régime spécifique. Ce régime spécifique de responsabilité, celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, vous comprenez donc immédiatement qu'il est très important. Mais il ne se réduit pas à ces drames et catastrophes qui affectent des groupes importants de personnes. Il a aussi vocation à appréhender les situations du quotidien, telles que, par exemple, l'explosion d'une télévision. À l'origine, avant qu'il y ait dans le Code civil ce corps de règles concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, à l'origine donc, chaque État membre de l'Union européenne avait ses propres règles concernant la responsabilité liée à un problème, à un défaut, à une dangerosité d'un produit. En France, on avait recours à différents régimes de responsabilité, par exemple les garanties qui pouvaient être dues par le vendeur en droit de la vente. Je songe à la garantie des vices cachés que vous étudierez l'an prochain. On pouvait avoir recours aussi à la responsabilité du fait personnel. On pouvait aussi avoir recours, j'en vois qui y songe et n'ose pas le dire, à la responsabilité du fait des choses. Vous vous souvenez qu'à l'époque où on se fréquentait physiquement et où je me promenais parmi vous, je vous avais exposé la distinction de la garde de la structure et du comportement, que j'avais parlé de l'explosion de bouteilles de Rickless et que j'avais évoqué le fait que cette distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement, elle était avant l'heure une forme de responsabilité professionnelle pesant sur le fabricant d'un produit. Elle était aussi, dès lors, une manière de rendre responsable pour le défaut d'un produit. Par conséquent, puisqu'il y avait des régimes éclatés dans chaque État, il n'y avait pas d'unité au niveau européen. Le régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux trouve son origine dans une directive du 25 juillet 1985 qui visait précisément à harmoniser les régimes de responsabilité entre les différents États membres concernant les produits défectueux. D'ailleurs, l'Union européenne considérait que la disparité des régimes de responsabilité avait trois inconvénients. Elle faussait la concurrence entre les États membres, puisque chaque État membre était soumis à un régime qui lui était propre, plus ou moins avantageux pour les uns ou pour les autres. Elle affectait la libre circulation des marchandises et elle entraînait nécessairement des différences dans le niveau de protection des consommateurs. Voilà pourquoi il y a eu une directive en 1985, prise pour harmoniser, je viens de le dire, les différents régimes de responsabilité à travers l'Europe. Mais encore faut-il ou encore fallait-il que cette directive soit transposée en droit interne, ça va de soi, ça vous rappelle le régime des directives de première année. Mais s'agissant de cette responsabilité du fait des produits défectueux, s'agissant de cette directive du 25 juillet 1985, la France a beaucoup freiné pour sa transposition. Et cette transposition est apparue très complexe, très controversée, très discutée, en raison de l'intervention, là encore, de différents lobbies concernés qui ne voulaient pas que l'on transpose dans notre législation un régime de responsabilité qui pouvait pénaliser certaines professions. La directive avait prévu à ce titre 3 ans pour être transposé dans les différentes législations. Il faut dire que 3 ans à partir de 1985, ça fait 1988. 1988, autant vous dire que la France a laissé traîner les choses bien au-delà du délai, au point qu'on a d'abord été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne le 13 janvier 1993. Je crois que c'est CJCE à cette époque et non pas CJUE. On a été condamné le 13 janvier 1993 pour avoir manqué aux obligations de transposition. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé à partir de 1985 jusqu'à la loi de transposition qu'il a fallu attendre en 1998. Pendant l'intervalle de temps, ces 13 ans, la jurisprudence n'est pas restée sans réagir. Bien sûr, vous vous souvenez, je viens de le dire, du régime des directives que vous avez étudié en première année, qu'on a pour la plupart étudié ensemble en première année. Vous savez que les juges ne peuvent pas faire application d'une directive non transposée, qu'elle n'est pas directement invocable par la jurisprudence. Il n'empêche que cette jurisprudence française s'est inspirée par anticipation de certaines dispositions de la directive pour essayer de remédier aux défauts de transposition. Par exemple, la Cour de cassation a créé une obligation contractuelle de sécurité à la charge du vendeur professionnel. Obligation contractuelle de sécurité à la charge du vendeur professionnel tenu de délivrer des produits exempts de tout vice et de tout défaut. Et ce, en plus des règles du droit de la vente. Par exemple encore, la jurisprudence a interprété le droit commun à la lumière de la directive, et je songe à l'interprétation des règles relatives à la responsabilité du fait des choses. Il a donc fallu attendre une loi du 19 mai 1998 pour que l'on introduise le nouveau régime prévu par la directive dans notre droit français et précisément dans le Code civil, directement, aux articles 1386-1 et suivants, 1386-1 à 1386-18. Si je résume ce que je viens de dire, je viens donc de dire que la responsabilité du fait des produits défectueux est issue d'une directive de 1985. Je viens de dire que cette directive visait à harmoniser le droit des États membres pour différentes raisons destinées à éviter un éclatement, une disparité des législations nationales. Je viens de dire que cette directive prévoyait 3 ans pour être transposée par les différents États membres, que la France, elle, ne transposera que par une loi du 19 mai 1998 et que dans l'intervalle, la jurisprudence n'est pas restée sans réagir, car elle a appliqué par anticipation, ou plus exactement, elle s'est inspirée par anticipation de certaines des dispositions de la directive pour faire évoluer le droit français dans le sens que commandait la directive. Et j'ai fini par dire que la loi du 19 mai 1998 a introduit un nouveau régime dans le Code civil aux articles 1386-1 et suivants. Que peut-on remarquer à propos de ce nouveau régime ? Je vais faire 4 petites remarques. D'abord, ce régime spécial, première remarque, ce régime spécial est inséré dans le Code civil et vous aurez remarqué que ça n'est pas le cas pour les accidents de la circulation qui étaient l'objet du chapitre précédent. La loi du 5 juillet 1985, elle, ne figure pas dans le Code civil et c'est uniquement le projet de réforme qui entend l'y introduire. Deuxième remarque, on est en présence d'un véritable régime de responsabilité et non pas un régime d'indemnisation. Troisième remarque, très importante, ce régime transcende la distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. Comme la loi concernant les accidents de la circulation, j'en vois qu'ils y songent d'eux-mêmes. On est en présence, par conséquent, d'un régime de responsabilité qui unifie les responsabilités délictuelles et contractuelles. Et il ne faudra pas que vous l'oubliez au moment où on parlera de la distinction des responsabilités délictuelles et contractuelles et de sa pertinence en droit contemporain. Et puis, quatrième remarque, c'est un régime qui doit être relevé d'office par le juge, même si la victime ne l'invoque pas, car il relève des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de chambre mixte du 7 juillet 2017. Je le redis, ce régime doit être relevé d'office par le juge, même lorsque le demandeur ne l'invoque pas, car il ressortit aux règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne. J'ai presque envie de faire une cinquième remarque et de dire que nous allons voir tout à l'heure que c'est un régime de responsabilité qui, lui aussi, distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes. Pour finir cette trop longue introduction, il me faut ajouter que nous avons été condamnés une deuxième fois par la Cour de justice pour transposition incorrecte cette fois, et non pas pour absence de transposition, mais pour transposition incorrecte de la directive. C'est un arrêt de la CJCE du 25 avril 2002, parce que nous sommes allés trop loin dans certains aspects pour la protection du consommateur, et nous avons donc, nous nous sommes autoproclamés une marge de manœuvre dans la transposition, dont nous ne disposions pas. Je suis en train d'évoquer une question tenant à une franchise de 500 euros que j'évoquerai tout à l'heure. Je veux juste à ce stade que vous notiez qu'on a été condamné une deuxième fois. On a donc été condamné une première fois pour non-transposition et par conséquent non-respect des délais et des obligations de transposition. Et on a été condamné une deuxième fois pour avoir mal transposé, et cette fois c'est une transposition incorrecte qui est sanctionnée, de la directive. Entrons dans le vif du sujet, mes amis. Section 1, le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux. Section 1, le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il y a trois séries de conditions qui doivent être envisagées. Des conditions qui portent sur le produit, des conditions qui portent sur le responsable et des conditions qui portent sur le dommage. Paragraphe 1, donc, un produit défectueux. Pour qu'il y ait un produit défectueux, il faut tout d'abord qu'il y ait un produit, grand A, un produit. Ouvrez vos codes civils, le produit est défini à l'article 1245-2. Et produit est un produit, tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, ce qui vous rappelle sans doute le droit des biens, même s'il est incorporé dans un immeuble. Or, en droit des biens, il devient immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche, L'électricité est considérée comme un produit. C'est une notion très large. Le produit peut être naturel comme industriel. Au fond, il est dit meuble, mais en droit des biens, il recouvre aussi des immeubles, puisque le bien peut être incorporé dans un immeuble. C'est une approche qui renvoie également et qui recouvre également les produits du corps humain, les organes, cellules, tissus, sang. C'est une approche assurément très large qui englobe, comme le dit expressément la disposition, l'électricité. Il faut donc un produit, mais il faut que ce produit, grand B, soit défectueux. Grand B, un défaut du produit. Et le défaut, il est défini à l'article 1245-3. Un produit est défectueux au sens du présent chapitre. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il y a un lien ici entre le défaut et la sécurité. Et l'article ajoute, je ne vais pas vous le dicter, donc je vous le lis, mais ce serait bien que vous ayez effectivement la disposition et l'ensemble des dispositions dont on parle sous les yeux. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, qu'est-ce que c'est que cette sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre que vise l'alinéa premier qui définit le défaut du produit? L'alinéa 2 répond, pour apprécier cette sécurité, il faut tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. L'alinéa 3 ajoute qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Alors on est évidemment ici au cœur de la responsabilité du fait des produits défectueux, puisque pour qu'il y ait responsabilité du fait des produits défectueux, il faut qu'on puisse dire que le produit en question, il présente un défaut. Et l'article 1245-3 nous dit « Un défaut se caractérise lorsque le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre. Il pose un problème de sécurité. » C'est la notion de sécurité qui est au centre de la compréhension de ce qu'est le défaut. Et l'alinéa 2 nous dit « Voilà, pour savoir quand est-ce qu'il y a défaut de sécurité, défaut du produit et donc que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre, il faut tenir compte de toutes les circonstances. Regardez la présentation du produit, l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, le moment de sa mise en circulation. Mais il ne faut pas en revanche considérer que parce qu'un produit postérieurement mis en circulation offre un perfectionnement supplémentaire, il ne faut pas croire que le premier produit, lui, est défectueux. Alors concrètement, cela appelle plusieurs remarques. Première remarque, un produit dangereux n'est pas nécessairement un produit défectueux. Il y a une différence entre le danger et le défaut du produit. Une fois admis que le défaut n'est pas le danger n'est pas le défaut, il faut observer que le défaut peut prendre deux formes. Le défaut peut être extrinsèque ou il peut être intrinsèque au produit. Première hypothèse, le défaut extrinsèque. Le défaut extrinsèque vise l'hypothèse dans laquelle le problème tient à la présentation du produit, c'est-à-dire à l'information qui en est donnée. Ça sera le cas lorsque la présentation du produit et des dangers qu'il recèle ne sera pas suffisamment claire, explicite ou complète dans la notice du produit. Par exemple, la notice d'un médicament qui ne ferait pas état d'effets secondaires ou de contre-indications connues, ce qui vous permet de comprendre pourquoi quand vous regardez la notice d'un médicament, vous êtes face à une liste de risques considérables, qui d'ailleurs souvent font davantage peur que le mal que l'on essaye de soigner avec le dit médicament. La Cour de cassation a par exemple jugé, dans un arrêt que vous pouvez noter, de la première chambre civile du 4 février 2015, que il y avait défaut, pardon, extrinsèque, qu'il y avait défaut extrinsèque dans l'hypothèse d'une bouteille de gaz propane pour laquelle l'information sur la dangerosité et sur les risques présentés par l'utilisation du gaz était insuffisante. D'où la caractérisation d'un défaut, mais un défaut qui tient à l'information sur le produit, un défaut qui tient à l'explicitation des risques et des dangers que cause le produit. Et par conséquent, a contrario, dès lors que le destinataire est suffisamment informé sur d'éventuels défauts ou risques, le produit ne sera pas considéré comme défectueux. Deuxième hypothèse, le défaut intrinsèque. Le défaut intrinsèque, c'est le défaut qui tient à la fabrication du produit. C'est le défaut qui se caractérise par le manquement à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Le produit est alors anormalement dangereux. Et c'est très important de comprendre que le défaut intrinsèque, qui vise un problème de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, ce défaut intrinsèque, il s'apprécie au fond au terme d'une balance entre les bénéfices escomptés et les risques inhérents au produit. Et on le comprend très bien pour le médicament ou on le comprend très bien pour le vaccin. Il y a des hypothèses dans lesquelles un médicament, un vaccin, et je dois dire que ce raisonnement est particulièrement d'actualité et vous voyez bien à quoi je pense, un médicament ou un vaccin est rapporté à la fois à la collectivité, à l'ensemble de la collectivité, à la masse des gens qui ont vocation à en profiter. Et en même temps, peut-être que ce médicament ou ce vaccin va soigner 98% des personnes, mais il pourrait très bien avoir des effets secondaires pour une petite partie de l'échantillon de ceux qui vont le consommer, l'utiliser. Et vous comprenez donc que s'agissant du défaut intrinsèque, le défaut intrinsèque, si je résume ce que je viens de dire, c'est l'hypothèse d'un manquement à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. C'est un défaut qui tient à la fabrication du produit, à son absence de sécurité en lui-même, mais pour apprécier cette absence de sécurité, il faut prendre en compte la balance entre les bénéfices que procure le produit et les risques inhérents pour certains de ses utilisateurs à son utilisation. Et que l'on caractérisera le défaut intrinsèque au terme de ce rapprochement, de cette balance entre bénéfices et risques. Et ça vaut particulièrement ce que je viens de dire pour les produits médicaux, pour les médicaments, pour les vaccins, où on ira rechercher le bénéfice pour la plupart des utilisateurs par comparaison aux effets secondaires qui peuvent en affecter certains. Une dernière remarque s'agissant du défaut. Quid d'un défaut potentiel, de l'hypothèse dans laquelle on considérerait qu'un produit pourrait être attentatoire à la sécurité. La jurisprudence a admis qu'un défaut potentiel puisse constituer un défaut du produit. Dans un arrêt de la CJUE du 5 mars 2015, il s'agissait en l'espèce de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques. À partir du moment où un produit n'est plus fiable, il est défectueux au sens des dispositions des articles 1245 et suivants, et en réalité, il est défectueux au sens de l'article 1245-3. Il faut également grancer que le produit ait été mis en circulation. Grancer un produit mis en circulation, c'est l'article 1245-4 qui l'exige. Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Il faut une mise en circulation volontaire. Volontairement, ça veut dire que si c'est en raison d'un vol, il n'y a pas de mise en circulation au sens des dispositions de la loi. Mis en circulation, ça veut dire sorti volontairement du processus de production. Paragraphe 2, le responsable du produit défectueux. Le responsable du produit défectueux, l'article 1245 vise le producteur. Le producteur, dit l'article 1245, est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Ce producteur, il est défini à l'article 1245-5. Je vous le lis. Est producteur lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Et par conséquent, vous comprenez à la seule lecture de cet alinéa premier que le producteur, c'est avant tout un fabricant. Et vous comprenez aussi, puisque je viens de me référer à la partie composante, qu'il existe des produits complexes, des produits dans lesquels il y a plusieurs produits assemblés. Et l'article 1245-5 dit qu'il faut évidemment aller chercher, rechercher le fabricant de la partie composante qui serait à l'origine du dommage, parce que défectueuse et parce qu'ayant entraîné un dommage. Et par conséquent, la première remarque qu'il faut faire, c'est que le responsable, c'est un fabricant qui peut être le fabricant du produit fini dans l'ensemble, mais qui peut être aussi le fabricant d'une partie composante. On notera que ce producteur, il agit nécessairement à titre professionnel. On est en présence d'une responsabilité professionnelle. Et on notera aussi que l'article 1245-5 complète ces dispositions en observant que celui, par exemple, qui appose sur le produit sa marque ou son nom va être assimilé à un producteur et pourra donc être responsable du défaut du produit. Quid évoque l'article 1245-6, si le producteur ne peut pas être identifié. Alors, si le producteur ne peut pas être identifié, alors la disposition ajoute que c'est le fournisseur qui sera responsable, à moins que lui-même soit capable de désigner le réel producteur ou son propre fournisseur. En fait, on remonte la chaîne des fournitures jusqu'au producteur. Mais si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à remonter jusqu'au producteur, alors la victime ne doit pas en pâtir. Et ce sera le dernier fournisseur identifié qui sera responsable. On a vu un arrêt de la première chambre civile. On n'a pas vu ensemble. Il y a un arrêt de la première chambre civile du 4 juin 2014 qui illustre ce que je suis en train de dire en assimilant au producteur l'importateur parallèle d'un produit phytopharmaceutique. Cet importateur parallèle, vous comprenez bien qu'il n'a pas fabriqué puisqu'il a importé, mais il va être assimilé au producteur et il sera donc jugé responsable. Ce que je souhaite que vous compreniez, c'est que par conséquent, on prend en considération une chaîne de production. Logiquement, le producteur, c'est celui qui fabrique à titre professionnel. Mais si on ne le retrouve pas, celui qui fabrique à titre professionnel, par exemple parce qu'il aurait disparu depuis, fait faillite, fermé son usine, c'est le fournisseur qui sera responsable. Ces dispositions, c'est évident, le seul fait de le dire le montre. Ces dispositions sont faites pour permettre à la victime de trouver un responsable. Il faut, paragraphe 3, un dommage. Paragraphe 3, le dommage. Le dommage, il y a deux types de dommages, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Il y a des dommages à la personne et des dommages au bien. On retrouve ici les distinctions qui ont été faites déjà dans la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. C'est la distinction moderne des dommages. Dommage à la personne, dommage au bien. Distinction moderne parce qu'elle conduit à traiter différemment les types de dommages selon qu'ils affectent la personne ou qu'ils affectent ses propres biens. Alors, les dommages à la personne, bah, vous savez ce que c'est maintenant. On vise ici les atteintes à l'intégrité corporelle. On y rentrera les frais de soins, l'incapacité de travail, la perte d'une chance, le préjudice par ricochet. On y rentrera le préjudice moral, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément. S'agissant des dommages au bien, on évoque ici le dommage que cause le produit, et c'est un point important, et c'est un point à souligner. On évoque ici le dommage que cause le produit à un autre bien que le produit défectueux lui-même. Je songe ici à un arrêt de la première chambre civile du 14 octobre 2015. Première chambre civile, 14 octobre 2015. C'était le propriétaire d'un yacht qui agissait contre le producteur en réparation des préjudices consécutifs au dématage du bateau. Et les préjudices qu'il invoquait, c'était la remise en état et la perte de jouissance. La Cour de cassation a refusé l'indemnisation sur le fondement des articles 1245 et suivants. En l'espèce, c'était les articles 1386-1 et suivants. Elle a dit, mais le régime, je cite l'arrêt, ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même, en l'occurrence le bateau. Dans cette hypothèse, lorsque c'est le produit défectueux lui-même qui subit son propre dommage. Alors, c'est le droit commun qui va s'appliquer. C'est le droit commun qui va s'appliquer, mais pas la responsabilité du fait des produits défectueux. Vous noterez, pour finir cette section, que en matière de dommages aux biens, l'article 1245-1, je crois, je tourne mon code civil, prévoit une franchise en l'espèce de 500 euros. Le montant de la franchise n'est pas dans l'article 1245, il est dans un 1245-1, il est dans un décret auquel renvoie l'alinéa 2. Cette franchise, elle a dû être réintégrée à l'article 1245-1 à la suite de la condamnation de la France que j'évoquais tout à l'heure pour mauvaise transposition. Ça veut dire quoi en clair ce que je suis en train de vous dire ? Ça veut dire que les dommages inférieurs à cette somme ne pourront pas être réparés. C'est ça que signifie le terme de franchise. Il faut que le dommage soit supérieur à 500 euros pour que les dispositions des articles 1245 et suivants s'appliquent. Section 2. La mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Section 2, la mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est qu'il y a expressément formulé dans les dispositions légales des causes d'exonération. Et ces causes d'exonération, tout ça a l'air très technique, mais au fond, c'est assez intéressant d'essayer d'en comprendre les sous-jacents, la philosophie, les ressorts. Parce que ça montre bien ce que l'on recherche dans ce régime de responsabilité. Il y a des causes d'exonération qui sont prévues, et puis il y a aussi des causes d'exonération qui sont exclues. Des causes d'exonération qu'on retrouve dans d'autres régimes de responsabilité et que l'on n'a pas voulu prendre en compte. Je vais commencer par elles. Grand A, les causes d'exonération inopérante. Les causes d'exonération inopérantes, ce sont les hypothèses dans lesquelles l'exonération n'aura pas lieu d'être. Il n'y aura pas d'exonération. Il y aura donc responsabilité. Et s'il n'y a pas d'exonération parce que la loi le dit, c'est pour des raisons de politique juridique qui tiennent justement à ce qu'elle recherche par cette responsabilité spéciale du fait des produits défectueux. Il faut comprendre, pour être éclairé de la suite, il faut comprendre que la responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité de plein droit. C'est ce que dit d'ailleurs l'article 1245-10, alinéa 1er. C'est une responsabilité de plein droit. Article 1245-10, le producteur est responsable de plein droit. Il est responsable de plein droit et je note trois choses. Première remarque, son absence de faute ne l'exonère pas. Donc première remarque, l'absence de faute n'exonère pas le producteur. Deuxième remarque, le fait d'un tiers, c'est prévu expressément par la loi, le fait d'un tiers n'est pas non plus exonératoire et ne réduit pas sa dette vis-à-vis de la victime. C'est ce que prévoit expressément l'article 1245-13. Ça ne veut pas dire, s'il y a le fait d'un tiers, que le producteur ne pourra pas ensuite agir contre le tiers. Ça veut dire que la victime, lorsqu'elle agit contre le producteur ne peut pas lui dire « Non, non, c'est pas moi, c'est le fait d'un tiers. » Il est tenu d'indemniser la victime à charge pour lui d'exercer une action récursoire, d'exercer une action récursoire contre le tiers, au stade de la contribution à la dette. On dira qu'au stade de l'obligation à la dette, il ne peut pas opposer le fait du tiers à la victime. Il est tenu à l'égard de la victime de l'indemniser comme s'il n'y avait pas eu de fait d'un tiers. Et puis, troisième remarque, qui est la conséquence de l'article 1245-9. Je vous cite les articles à chaque fois pour que vous puissiez vous y référer. Troisième remarque, le fait que le produit ait été fabriqué dans les règles de l'art, qu'il ait été fabriqué dans le respect des normes existantes, ou même encore qu'il ait fait l'objet d'une autorisation administrative, cela n'exonère pas, le producteur. Alors quelles sont, grand B, les causes d'exonération efficaces, grand B, les causes d'exonération efficaces. Il faut mentionner ici les causes d'exonération classiques que vous connaissez, le cas de force majeure, le fait de la victime. Ce sont des causes d'exonération qui sont efficaces. Mais il faut surtout porter attention aux causes d'exonération spécifiquement prévues par l'article 1245-10. Article 1245-10 qui énumère des causes d'exonération spéciales, puisqu'il dispose « Le producteur est responsable de plein droit, je l'ai déjà dit, à moins qu'il ne prouve. » Et là, il y a toute une série de dispositions, ça va jusqu'au cinquièmement, par lesquelles on va envisager des causes d'exonération au profit du producteur. Par exemple, il n'est pas responsable si le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Les règles impératives sont facteur d'exonération. Alors qu'il y a deux minutes, vous avez noté que le fait de fabriquer dans les règles de l'art, le fait de fabriquer dans le respect des normes existantes, le fait d'avoir bénéficié d'une autorisation administrative n'est pas exonératoire. Cette fois, vous notez, mais il n'y a pas de contradiction, au contraire, cette fois, vous notez que si on fabrique le produit en suivant des règles impératives qui s'imposent aux producteurs qui sont d'ordre législatif ou réglementaire, alors le producteur, c'est logique, pourra dire « Mais écoutez, moi, j'ai suivi ces règles impératives. » Pareillement, il y a une cause d'exonération lorsque, compte tenu des circonstances, c'est le deuxièmement de l'article 1245-10, il y a lieu d'estimer que le défaut qui a causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou que le défaut est né postérieurement. Vous devez comprendre, je pourrais résumer le deuxième mot de l'article 1245-10 comme ça, je pourrais dire que le producteur est responsable d'un défaut de fabrication. Le producteur est responsable d'un défaut de fabrication. Si le défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation, alors il n'est pas responsable. Si le défaut est apparu postérieurement, est né postérieurement, alors il n'est pas responsable. Je voudrais porter attention à un autre cas d'exonération, exonération qu'on appelle pour risque de développement, et qui est visé par le quatrièmement. le quatrièmement de l'article 1245-10. Je vous le lis. Le producteur ne sera pas responsable, quatrièmement, s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. Au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. C'est un point très important. C'est donc ce que l'on appelle l'exonération pour le risque ou pour risque de développement. Le risque de développement, c'est un risque indécelable. C'est un risque impossible à connaître au moment de la mise en circulation du produit. C'est un risque qui va se révéler après la mise en circulation, mais qui existait bien dès le départ, contrairement à l'hypothèse précédente que je viens d'évoquer, où le défaut naît après la mise en circulation. Là, je vise une hypothèse dans laquelle le défaut existe ab initio, au moment de la mise en circulation, mais qui n'est pas décelable à ce moment-là pour une question d'état des connaissances scientifiques et techniques. Ce point est très important parce que c'est un point qui a été extrêmement discuté au moment où on a introduit, ou au moment où on a réfléchi à la responsabilité du fait des produits défectueux et au moment où on l'a introduit en droit français, parce qu'il y avait ici une latitude offerte aux États membres d'admettre ou de ne pas admettre l'exonération pour risque de développement. Et pourquoi ce point est important ? Parce que il renvoie à la responsabilité que prend tout scientifique lorsqu'il élabore un produit nouveau, qui est finalement de ne pas tout maîtriser s'agissant de la sécurité que va apporter ce produit. Et ce point est très important parce qu'il renvoie aussi, d'un point de vue à la fois philosophique mais aussi économique, au point de savoir si l'on veut favoriser ou non l'inventivité, les découvertes scientifiques et finalement l'innovation scientifique. Vous comprenez que si on dit « Attention, vous êtes en train d'inventer un produit nouveau », sachez que pour vous, aujourd'hui, ce produit nouveau ne recèle aucun risque, aucun défaut de sécurité. Mais au fond, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il y a des défauts de sécurité qui sont indécelables. Si on dit, vous, producteur, qui courez ce risque d'inventer un produit nouveau qui comporterait un défaut de sécurité, vous risquez dans quelques années d'être responsable, alors même que ce défaut n'était pas il n'était pas possible de déceler ce défaut à la date de la mise en circulation, eh bien vous risquez d'avoir peur et vous risquez de ne pas prendre le risque de fabriquer et de mettre en circulation ce produit nouveau. Autrement dit, ce que je veux dire d'un mot, c'est que le risque de développement, il a partie liée avec l'inventivité et l'innovation. Et l'exonération pour risque de développement a évidemment été fortement réclamée par les fabricants de médicaments qui ont demandé à pouvoir en profiter. Voilà pourquoi elle a été introduite en droit français. Mais il faut noter qu'elle a fait l'objet d'un compromis, car l'article 1245-11 dit que le producteur ne peut pas invoquer cette cause d'exonération, ne peut pas invoquer l'exonération pour risque de développement, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci On songe alors au sang contaminé, et dans cette hypothèse, il n'y a pas d'exonération pour risque de développement. Il faut noter que le projet de réforme de la responsabilité civile se propose d'élargir cette impossibilité d'invoquer le risque de développement en introduisant dans la liste de l'impossibilité d'invoquer cette cause les cas où le dommage est causé non seulement par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci, mais aussi lorsque le dommage est causé par tout produit de santé à usage humain. Dans ce cas-là, la cause d'exonération pour risque de développement serait également exclue. Paragraphe 2. Les délais pour agir. Il y a deux délais de prévu qui ont des effets distincts. Le premier délai, c'est un délai dit de forclusion, article 1245-15. La responsabilité est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit. C'est fini. 10 ans après, ça tombe. On ne peut plus agir contre le producteur. À moins que pendant cette période de 10 ans, la victime ait engagé une action en justice. C'est le premier délai, délai de forclusion. Et puis il y a un deuxième délai, qui est un délai de prescription, prévu à l'article 1245-16. L'action en réparation se prescrit dans un délai de 3 ans, un délai de 3 ans qui est dans le délai de 10 ans. Un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir conscience du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Autrement dit, dans le délai de 10 ans, qui est le délai au cours duquel doit agir la victime, il faut que la victime agisse dans les 3 ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir conscience du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Ce chapitre est fini. J'ai été beaucoup plus long que ce que je pensais. J'ai été beaucoup plus long, mais et en plus, je crains d'avoir parlé un petit peu vite à certaines reprises. Je me suis dit que vous aurez noté qu'entre les dispositions anciennes 1386-1 et suivantes et les dispositions nouvelles, il y a un décalage d'un article. Par exemple, la définition du bien meuble, pardon, la définition du produit, comme tout bien meuble, etc., etc., c'est devenu 1245-2 et c'était 1386-3. Par exemple, la définition du défaut, c'est 1245-3 et c'était 1386-4. Il y a un décalage d'un. Pourquoi y a-t-il un décalage d'un? C'est une raison très simple qui permet de le comprendre. C'est que dans le code civil actuel, issu de la renumérotation à la suite de la réforme du droit des contrats, la responsabilité du fait des produits défectueux commence à l'article 1245, 1245, et ensuite il y a l'article 1245-1, l'article 1245-2, et ainsi de suite. Tandis que dans le Code civil, version antérieure à la réforme du droit des contrats, la numérotation commençait à l'article 1386-1 et non pas à l'article 1386. Voilà pourquoi il y a un décalage d'un article et d'un numéro, si je puis dire, depuis le début. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais c'est déjà bien que je le dise maintenant. Moi-même, je n'avais pas totalement fait attention. Il n'est pas impossible que je me sois de temps en temps trompé en parlant des articles 1245-1 et suivants. Il faut toujours entendre, en réalité, 1245 et suivants. Voilà, ce cours est fini. Il va de soi que je ne vais pas vous quitter sans passer une petite chanson. Et j'avais d'abord envie de vous citer une phrase de Pierre Bénichoux, ancien rédacteur en chef au Nouvel Observateur, qui est mort il y a quelques jours. Il écrivait, c'était un vrai aficionados de chansons et de chansons françaises. Il écrivait, c'est un truc bizarre la chanson. C'est un fil de barbe à papa, deux phrases, trois notes qui s'en vont, s'oublient, reviennent, s'installent et vous relient à vous-même. Dites-moi vos six chansons préférées et je vous raconte votre vie et je vous fais pleurer. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous passer l'une de mes six chansons préférées. Je voudrais en passer une que je trouve extrêmement puissante, extrêmement forte, en hommage à l'Italie et aux Italiens, nos voisins, qui souffrent plus que nous actuellement, même si nos souffrances ne doivent pas être minorées. Je voulais, j'avais envie de leur rendre un petit hommage en vous passant un chant de révolte. Un chant de révolte qui célèbre et rend hommage à l'engagement qui a été mené par les partisans résistants pendant la Seconde Guerre mondiale à l'encontre des troupes allemandes. Ce chant est évidemment très connu. Je vois sur YouTube qu'il y a plus de 60 millions de vues. Plus de 60 millions, c'est justement la population de l'Italie. Et je voudrais penser aux Italiens, mais aussi penser à vous, à nous tous, et surtout à ceux qui souffrent. J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui souffrent dans cette période actuelle et que vous réussissez à vivre tant bien que mal dans cette situation extrêmement complexe. Je pense fort à vous, je vous embrasse fort et à très vite.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.